Novembre est le mois de l'ESS, autrement dit de l'économie sociale et solidaire.
Associations, mutuelles, coopératives, nous sommes des milliers de bénéficiaires ou d'acteurs à prendre part à cette économie vertueuse qui donne la priorité aux principes de solidarité, d'utilité sociale et d'équité.
Connaître l'ESS, la développer et surtout la défendre, c'est ce que vous propose Radio FM+, en 13 émissions diffusées entre le 2 et le 30 novembre à 10h10.
Bonjour et bienvenue dans ce 10-10 aujourd'hui qui sera consacré à l'association Aviso, une très vieille association qui va nous être présentée aujourd'hui par son secrétaire qui s'appelle Jacques Artière. Jacques, bonjour. Alors quand je dis très vieille asso, je n'exagère pas du tout.
Non, pas du tout, parce qu'elle est née en 1803 aux portes de la prison de Montpellier, qu'on appelait communément le château. Je dis bien aux portes puisqu'il n'y avait pas de locaux à cette époque-là et que l'accueil se faisait donc sur le trottoir. Et c'était donc des dames patronesses, très charitablement, qui accueillaient les gens, les familles et qui venaient visiter les personnes. L'activité ne s'est jamais arrêtée jusqu'à ce jour. L'association a changé de nom et un petit peu de rythme parfois.
Et peut-être de morale aussi,
oui,
parce que je suppose que quand ces braves dames venaient accompagner les familles, c'était peut-être pas tout à fait dans le même esprit que le travail que vous faites aujourd'hui.
Tout à fait. Donc elle a été reprise, elle a été structurée par des magistrats qui étaient sensibilisés aux conditions de détention et à l'importance qu'avaient les visites des familles. En 1982, elle s'ouvre aux protestants, puisque c'était une association catholique au départ. Elle s'ouvre aux laïcs en 84 et elle proclame sa non-confessionnalisation en 1991.
Donc là, ça veut dire que c'est ouvert à toutes les confessions.
Tout à fait.
Qu'il s'agisse de celles des prisonniers, de celles des visiteurs, de celle des familles et de celle des
bénévoles
de votre association. Voilà. Donc, longue histoire qui, je suppose, a suivi tous les temps de la détention, parce que quand vous nous parlez de 1803, les galères existent encore, la peine de mort existe toujours, bien évidemment, puisqu'il a fallu attendre 80 ou 82, je crois, pour qu'elle soit suspendue, évidemment, et définitivement, je l'espère, puisque maintenant c'est inscrit dans la Constitution. Mais je suppose que la société a évolué, les peines ont évolué, peut-être d'ailleurs les délits ou les crimes ont évolué eux-mêmes.
Complètement, on voit d'ailleurs dans l'histoire récente et sur l'histoire longue une modification des peines au regard des délits. Et d'ailleurs, une des raisons actuelles de la surpopulation carcérale est la tendance pour les magistrats à donner des peines plus longues. Donc on s'aperçoit qu'il n'y a pas davantage de peines qui sont prononcées. Donc il y a une espèce de stabilité, malgré ce qu'on voudrait nous faire croire. Mais par contre, les peines sont plus longues, ce qui fait que le delta des gens qui restent par rapport à ceux qui sortent est toujours plus important.
Donc, peine plus longue, peine plus sévère.
Oui, tout à fait.
C'est ce que ça
tout
signifie.
Tout à fait.
On est bien d'accord. Quelles sont les actions que vous pouvez mener, vous, donc votre association Aviso, et quelles sont les limites de cette action? Je suppose qu'il y a des choses que vous êtes autorisé à faire et qui font d'ailleurs l'objet de votre association.
Bien sûr.
Mais il y a des limites, probablement des bornes à ne pas dépasser, parce qu'on est quand même dans un milieu extrêmement sensible.
Alors, l'association Aviso et l'association donc Montpellier-Rennes pour la visite et le soutien des personnes détenues et de leurs familles. Donc, ce soutien des personnes se fait principalement au travers des familles, en les accueillant donc sur le site, sur les deux sites que nous avons, donc qui sont la Villeneuve-les-Maguelones.
Donc site physique.
Site physique, la prison, la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelones, et la SAS, qui est le service d'accompagnement à la sortie, qui est au nord de Montpellier, au parc en médecine. Donc, principalement sur Villeneuve-les-Maguelones, et je vous expliquerai pourquoi après, nous avons un accueil du mardi matin jusqu'au samedi soir, sur des plages horaires que nous essayons de couvrir au maximum, pour que les familles, quand elles viennent visiter, les personnes détenues, puissent avoir un accueil autre que l'accueil administratif, qui est fait de façon tout à fait correcte, il n'y a aucun souci là-dessus, mais d'avoir un accueil associatif qui soit bienveillant,
plus familial, plus chaleureux, plus moins administratif.
Sans jugement aucun, et surtout pour les primo-arrivants, c'est-à-dire les gens qui arrivent pour une première incarcération, surtout quand ils n'ont pas quand il n'y a pas de précédent, c'est le monde qui se dérobe sous leurs pieds.
Oui, j'allais dire pour les familles. Je suppose que pour ceux qui ont commis un délit ou qui sont supposés ou un crime qui ont supposé l'avoir fait, puisqu'ils ne sont pas forcément condamnés encore, ils peuvent s'attendre à quelques soucis. Mais parfois, les familles tombent de l'armoire, quoi.
Tout à fait, tout à fait. Il y a des gens, alors, ou qui ne l'ont pas vu venir, ou qui le craignaient, etc. Mais de toute façon, là, c'est un moment qui est extrêmement difficile. Et pour des proches, venir passer les murs de la prison, c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux. Donc, il faut... le fait qu'il y ait une oreille, juste une oreille bienveillante, qui puisse les accueillir, est déterminant pour elles.
Alors, justement, on va parler de cette oreille. Vous êtes des bénévoles.
Oui.
Vous n'avez pas toujours travaillé. Oui, effectivement, comme vous dites, vous n'avez pas toujours travaillé. Certains donc n'ont eu aucun contact précédemment avec le monde carcéral, etc. Certains peut-être plus parce qu'ils ont été éducateurs, travailleurs sociaux. Mais est-ce qu'il y a une formation? Parce que c'est pas facile d'accueillir des familles comme ça dans la détresse, dans l'angoisse, alors, dans la colère parfois,
oui,
dans l'abattement.
Oui, bien sûr. On a aussi des explosions de colère. Il faut savoir gérer tout ça. Alors les formations, nous sommes rattachés à un réseau qui est régional et national, qui est celui de l'UNAFAM.
Et qui veut dire ?
Donc, l'Union nationale des associations familiales.
Voilà. D'accord.
Donc, qui regroupe toutes les associations, puisqu'en gros, on va dire que la plupart des établissements pénitentiaires, il y a quelques trous dans la raquette, mais la plupart ont une association qui gère l'accueil des familles pour le site. Et donc, elles sont regroupées régionalement et nationalement. Et donc, ce réseau national nous offre des formations qui sont assez solides. On essaie par ce réseau-là de proposer une à deux formations par an à nos bénévoles.
Et vous avez quelques thématiques de ces formations? Parce que suppose qu'on ne peut pas tout mélanger non plus.
Ça tourne beaucoup autour de l'accueil. Ça tourne beaucoup autour de l'enfance. La question de l'enfance, c'est une vraie question parce que beaucoup de familles viennent avec les enfants. Donc, la question de la petite enfance, comment on parle de la détention à des enfants. Et donc, l'UFRAMA a fait des fascicules qui sont très très bien faits, qui sont à destination des familles, pour trouver les mots adaptés, pour expliquer que papa ou le grand frère a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et donc, qu'il a menacé à travers des histoires de petits lapins avec la patte bleue, etc. Choses comme ça. C'est très, 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 très joli, très bien fait, mais quand même avec un principe de réalité qui est celui d'expliquer ce qu'est la détention et pourquoi.
Donc, vous avez, vous, quand même, en tant qu'association, des engagements aussi vis-à-vis de l'institution. D'ailleurs, vous avez pour commencer un local. Vous ne faites plus ça à la porte.
C'est ça. Alors, nous sommes accueillis par l'administration pénitentiaire et nous sommes sur le territoire de l'administration pénitentiaire. Accueillis et tolérés, je dirais, puisque on a aucun souci là-dessus. L'administration pénitentiaire est très au clair sur les missions que l'on...
Accueillis et bien accueillis
Très bien accueillis. Sur les missions que l'on remplit, elles savent qu'elles sont complémentaires aux actions qu'elles mènent elles-mêmes. Elles ont, je crois, à peu près partout compris l'importance de ces actions-là. Pour autant, il y a un cahier des charges qu'il nous faut absolument remplir. Et donc, on a une charte qui est que l'on fait signer à nos adhérents après le processus d'adhésion, de découverte et d'adhésion. Et on s'engage auprès de l'administration pénitentiaire à avoir un certain comportement de confidentialité, de respect des règles de sécurité. On est quand même dans une prison, donc tout ne circule pas, etc. Donc tout le monde est au clair là-dessus et les familles comprennent s'il y a des restrictions. Quand on leur explique, elles comprennent très bien que nous, on est juste là avec des obligations qui nous sont faites également.
Mais vous n'avez pas de contact avec les prisonniers ou les personnes concernées par les familles que vous recevez ?
Non, il y a une étanchéité à ce niveau-là. C'est plutôt là le secteur des visiteurs de prison, visiteurs et visiteuses de prison, qui a une fonction aussi extrêmement importante. Alors, par contre, il arrive que l'on ait des signalements de familles qui nous font part d'une inquiétude par rapport à la santé mentale ou à des risques de passage à l'acte.
Et ça, vous pouvez faire passer le message.
Et ça, on transfère tout de suite l'information à la direction qui en tient beaucoup compte.
Jacques, on va faire une petite pause musicale si vous le voulez bien. On va écouter Jacques Brel, La Quête. Allez. Très belle chanson et bien placée à ce moment-là de cette interview.
rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance. Et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille, et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile.
Jacques Cartier est toujours avec nous aujourd'hui dans ce 10-10. Merci à vous, les auditeurs, de votre fidélité. Merci à Aurélien qui assure la technique de cette émission aujourd'hui. Alors Jacques Cartier, il est le secrétaire de l'association Aviso, qui est une association de bénévoles qui accueille les familles de prisonniers à Maguelone, par exemple. Donc vous nous disiez tout à l'heure que vous receviez des familles sans aucun jugement. Mmh. Et on parlait du rapport que vous aviez évidemment avec l'administration pénitentiaire, rapports qui sont tout à fait normalisés, tout réglés, relativement chaleureux. Enfin, les choses se passent bien. Vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, il y a les services que l'on assure auprès des familles, puisque le déplacement à la prison n'est pas toujours aisé. Et les codes, ou en tout cas, l'aspect administratif, etc., est peu connu, voire méconnu. Donc on a d'abord un site internet qu'on a complètement relooké pour pouvoir donner de façon facile et accessible ces informations à toute personne qui le souhaiterait. On a un répondeur téléphonique qui permet à des gens qui seraient un peu en difficulté avec l'outil informatique ou qui ont besoin d'avoir une précision sur un point ou de tout simplement de parler un petit peu, de nous appeler. Donc elle nous laisse un message sur le répondeur.
Et vous les rappelez ?
On les rappelle dans la journée même. Et il y a 4 bénévoles qui tournent.
Oui, j'allais vous dire, vous êtes combien de bénévoles au fait ?
Alors on est une très petite équipe, on est actuellement une quinzaine de bénévoles, on a été plus, rarement moins, mais c'est effectivement une...
C'est peut-être un appel d'ailleurs, si vous êtes tenté par cette mission.
Une vraie difficulté pour nous, et si effectivement des auditrices et des auditeurs se sentent intéressés, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, parce que c'est vraiment de très très belles rencontres mettre un pied dans l'humanité de façon très très marquante.
Alors, puisqu'on parle d'humanité, etc., ce rapport aux familles est évidemment particulier, puisque pour certaines, c'est vraiment, effectivement, vous le disiez, le monde qui s'effondre. Pour d'autres, c'est un peu plus habituel. Mais quelles sont-elles en général ?
Alors, on va commencer, si vous voulez, par celles qui ont, sur le choc carcéral, pour les premières, pour les premiers, voilà. Je crois que la première chose et d'avoir quelqu'un qui puisse les écouter sans mettre l'ombre d'un jugement. Ce qui est terrible pour ces familles-là, c'est j'ai quelqu'un en prison, donc il a forcément fait quelque chose qui l'a tiré en prison, même si il n'est pas encore jugé et présumé innocent. On sait le regard que porte ne serait-ce que la famille, les voisins, etc., les collègues de travail, donc c'est quelque chose d'extrêmement difficile.
J'allais dire parfois exagéré, parce oui, que oui. Les familles, parfois, s'auto-culpabilisent.
Certainement.
Et le regard n'est pas forcément celui qu'elles croient pressentir.
C'est ça. Donc, le fait de pouvoir, d'avoir quelqu'un qui est badgé, bénévole, et de pouvoir, qui est en capacité de recueillir cette parole-là, ou de la solliciter, d'inviter en tout cas à la faire. Donc, on respecte tout à fait les gens, c'est-à-dire que si les gens n'ont pas envie de parler...
Oui, vous ne posez pas de questions.
Voilà, on prend le temps de s'apprivoiser réciproquement au fil des visites. Et puis, justement, ça me permet de faire le lien avec les personnes qui viennent de façon... on va dire de plus chronique.
Un peu plus régulière.
Parce
oui.
que parce oui. qu'il y a un monsieur qui est un peu récidiviste. Et ben c'est important aussi, même, ce serait trop simple de croire qu'elle s'habitue à ça. Et venir et retrouver sur des rythmes réguliers les mêmes visages, quelqu'un qui va demander les nouvelles du petit ou de la petite, etc. Et quelque chose qui est aussi réconfortant et très apprécié des familles.
Et puis au fil de la détention aussi, parce que ces familles, elles viennent ben, effectivement une première fois, parfois pour une première incarcération, parfois elles reviennent, mais au fil du temps, vous les revoyez régulièrement, enfin pas forcément parce qu'il y a une récidive, mais juste parce qu'elles viennent parler avec vous. Vous êtes un lieu de rencontre, de partage.
C'est ça, parce que
d'écoute.
Les visites, alors il faut savoir que pour les personnes qui sont prévenues, donc en attente de jugement, elles ont droit à 3 visites par semaine et qu'on en voit qui viennent en ce moment, j'ai quelques visages en tête, de personnes qui viennent 3 fois par semaine, ce qui est énorme. Donc ben, ce lien-là, il se crée nécessairement. Et puis quand la personne est passée en jugement, on passe à 1 fois par semaine.
Alors la question est que, bon, quand ces gens sont jugés, qu'ils sont condamnés. Parfois, ils restent à Villeneuve-les-Maguelone, d'autres fois, ils s'en vont. Comment se fait le lien? Parce que là, ces familles-là, elles ont été habituées à vous rencontrer, elles ont pu parler avec vous, elles ont pu décharger un petit peu de leurs angoisses, de leurs peines, de leurs questionnements. Une fois que les choses sont jugées, des fois, il y a un départ. Donc, est-ce qu'elles sont suivies? Est-ce qu'il y a un réseau, un maillage?
Voilà, c'est en ça que le réseau de l'UFRAMA est important, puisque de l'UFRAMA et de l'UNAFAM, donc les deux structures, qu'elles soient régionales ou national, puisque on est sur un établissement en principe courte peine, donc les gens vont rester sur...
Quand vous dites courte peine, c'est combien?
C'est du 2-3 ans. Sur 2-3 ans, on va pas proposer d'aller aux personnes d'aller sur un centre de détention. Par contre, si c'est des peines plus longues, là, elles vont être orientées d'abord sur un centre...
Maguelone, c'est une maison d'arrêt. Oui, la ça. Différence, c'est ça. La maison d'arrêt, c'est des courtes peines.
Courte peine et l'attente de jugement.
Voilà. Et centre de détention, une fois que le jugement est prononcé... Voilà. Ça peut aller à des peines très très longues.
Très très longues, voilà. Donc quand c'est... ce n'est pas la majorité des cas, bien heureusement. Et quand c'est des longues peines, les choses sont aménagées, soit en fonction de la proximité de la famille, soit... Voilà. Mais il se peut que pour le confort de la personne détenue, elle choisisse un établissement pénitentiaire qui est loin, et auquel cas, on a effectivement tout loisir de mettre les personnes en relation avec un accueil famille sur le site s'il y en a.
Alors tout à l'heure, vous avez prononcé un mot important, vous accueillez les familles, oui. Vous les réconfortez, vous les écoutez, vous les conseillez de temps en temps, vous les conseillez.
Conseiller, alors on n'a pas la prétention d'avoir toutes les clés.
Vous les accompagnez.
Voilà. Par contre, on travaille pour mieux les orienter éventuellement à la constitution d'un réseau qui est un groupe local Concertation Prison qui est en train de faire de naître sur Montpellier.
On en parlera, on refera un décès
là-dessus. Oui, voilà. Et là, ça peut être important parce que d'avoir, par exemple, il y a une association qui est l'UNAFAM qui s'occupe des troubles psychiques dans les familles. Et on sait très bien qu'en détention, on est à peu près à 70-74% de gens qui ont des troubles psychiques. Donc, et des fois, sérieux et qui peuvent déstabiliser une famille.
Et la prison n'arrange rien.
Voilà, nous on n'a pas la compétence pour gérer ça, mais par contre on a la possibilité de les mettre en relation avec l'UNAFAM qui va les accompagner dans cette difficulté.
Mais votre rôle n'est pas celui des visiteurs de prison. Et je suppose que vous êtes en contact avec les visiteurs
bien
de
sûr,
prison. Mais ça n'est pas du tout la même chose. Les visiteurs de prison, c'est une autre démarche encore.
Tout à fait. tout à fait.
Bon, on va se refaire une petite pause musicale si vous le voulez bien, ça, le temps passe vite, hein, vous le voyez. On va refaire une petite pause musicale avec un petit sourire qui nous vient de Bobby Lapointe. Et tout de suite après, nous continuerons parce qu'il y a l'avant-détention, le pendant la détention et l'après-détention. Et là encore, vous avez un rôle à jouer puisque vous êtes proche des familles et que les familles sont déterminantes, effectivement, dans la reconversion, par exemple, ou la réinsertion des prisonniers dans une vie normale quand la peine est terminée.
Ce soir au bar de la gare, Igor Agar est noir, il n'arrête guère de boire. Car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter. Sa Katia l'a quitté, il a fait chou blanc, ce grand duc, avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc. Ma tactique était top, dit Igor qui s'endort, ivre mort au comptoir du bar. Un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard se marre, j'ai fait un paillard du bar. Par encore Igor, Igor, mépris de son oreille. Merveilleux réveil vermeil, lui prodigue des conseils pendant son sommeil. Tic-tac, tic-tac, tac-a-tic-a-quitté. Tic-tac, tic-tac, tac-a-tic-a-quitté. Tic-tac, tic-tac, t'es cocu qu'attends-tu? Puisse-toi, t'es cocu, tac-a-tac-a-quitté. Et quitter ton quartier, tac-a-tic-a-quitté. Ta tactique était top, ta tactique était top, tac-a-tic-a-quitté. On te t'a toqué troc, ton tricot tout crotté. Et ta croûte au couteau, on t'attend t'attaquer. Contre ta cocotée, quatre écoutes. T'es discuté, t'es critiqué, t'as grand de toquer. Qui comptait t'antiquant, tout un tas de tickets, de quais. Quand tout à coup, tic-tac, tic.
Jacques Artière est avec nous aujourd'hui pour ce 10-10. Il représente en tant que secrétaire l'association Aviso, qui accompagne les familles de détenus pendant la détention de ceux-ci, à Maguelone en particulier. Merci à Aurélien qui est toujours avec nous, derrière non pas les grilles, mais derrière sa vitre. Jacques, on va continuer à parler de ce que c'est que la détention, parce que c'est quand même dans une vie, une période très particulière. Un certain nombre de détenus passent de très longues années en prison, d'autres y font un court séjour, mais à chaque fois, de toute façon, on a beaucoup parlé du choc carcéral il n'y a pas longtemps pour quelqu'un de beaucoup plus célèbre que la majorité des détenus dont vous voyez les familles. Reste qu'il existe véritablement. Donc, choc carcéral pour les familles et évidemment pour le détenu. Alors, je pense que l'importance d'avoir une famille solide et à peu près en bonne santé, c'est quand même un soutien important auquel vous participez.
Alors, c'est déterminant pour une personne détenue, quand elle va ressortir, de pouvoir s'appuyer sur une famille, si tant est que celle-ci soit
équilibrée. Voilà.
Voilà, c'est parce que la reprise pied après une période d'incarcération qui est souvent malheureusement assortie d'inactivité, alors parce que certains arrivent à bénéficier de cours, ce qui est extrêmement important parce que des fois ils ont un peu décroché dans leur parcours, soit une activité professionnelle
qui les prépare
un petit peu, ou en tout cas qui les maintient en
rythme.
Qui rythme leur journée. Ça va à peu près représenter, je pense, 20% des personnes détenues, ou à peine plus. Donc, beaucoup restent dans cette inactivité. Et donc, il va falloir reprendre un rythme, des fois avec des contraintes qui sont celles d'un bracelet ou de contrôle judiciaire, etc. Donc, la famille est extrêmement importante pour pouvoir, d'abord matériellement, et puis...
Oui, alors ce que j'allais dire, il y a la question du cantinage, c'est-à-dire que la famille donne parfois un petit peu d'argent. L'entretien du linge, d'ailleurs... Pour l'entretien du linge, vous avez mis en place des facilités pour certaines familles.
Certaines familles ayant des difficultés à venir de loin, puisque le principe est que l'on est incarcéré à l'endroit où on a constaté le délit. Donc, si vous venez de Brest et que vous faites commettre un larcin ou un délit routier important, etc., à côté de Montpellier, vous serez incarcéré à Montpellier, pas à Brest. Donc, la famille qui est de Brest, pour venir toutes les semaines porter du linge, ça fait un petit peu compliqué. Alors, elle va venir une fois, deux fois, trois fois dans l'année, suivant les moyens et la disponibilité qu'elle a. Mais elle souffre énormément de ne pas pouvoir communiquer le linge, qui est un médium extrêmement important, parce qu'il y a beaucoup d'intimité là-dedans. etc. Donc, on a mis en place un système où les familles peuvent nous envoyer
un trousseau,
à des intervalles, voilà, un sac de linge, dont notre site répertorie dans le détail ce qui est possible et pas possible. Il y a toujours les deux aspects. Et nous faisons rentrer nous réceptionnons ce sac de linge en poste restante, nous le faisons rentrer en lieu et place de la famille.
Donc, ça reste quand même un envoi de la famille vers la prison, et ça, le plus souvent possible, pratiquement toutes les semaines pour certaines ?
Non.
Vous avez un vestiaire, par exemple, qui pourrait...
Voilà, non, nous, on n'a pas de vestiaire, donc ça reste, c'est une bénévole qui s'occupe de ça, qui réceptionne les colis, qui les contrôle et qui les fait rentrer. Donc ça, c'est au fil de l'eau.
Belle responsabilité.
On doit être à peu près sur une trentaine de colis par an, quoi, ce qui n'est pas négligeable quand même, pour des familles qui sont loin, qui ne sont pas la majorité, mais c'est important pour elles. Et puis, pour les détenus qui sont en interne et qui sont privés de famille, parce qu'ils ne sont pas là...
Que la famille ne veut pas voir.
Voilà. On a mis en place, mais en association avec la Croix-Rouge et avec la NVP, les visiteurs de prison, et la VISO, une vestiboutique qui permet aux personnes non visitées ou indigentes de pouvoir venir s'habiller gracieusement.
Ça nous amène tout directement aux conditions de détention. Alors, on en entend beaucoup parler en ce moment.
Oui.
Et je crois que c'est un sujet qu'on doit aborder. On ne peut pas le contourner.
Il est inévitable.
On a été condamné, la France,
oui,
déjà plusieurs fois.
On l'est régulièrement, puisqu'il y a une surpopulation carcérale qui est absolument insoutenable.
Oui.
Pour vous donner une idée très concrète, la prison de Villeneuve-les-Maguelones, c'est in situ, c'est à peu près 600 places, et on est à 1200 détenus actuellement.
Voilà, donc ça veut dire qu'on double, voire qu'on triple le nombre de détenus dans les cellules.
On les double, enfin oui, dans les cellules, mais sur la capacité totale de la prison, on arrive à pratiquement doubler. Ça dépend, enfin, on est à 110, 120, 540%, ça dépend des périodes. Des fois, on est arrivé à Nîmes, on a passé les 200% allègrement. Voilà, il y a vraiment un vrai problème avec ça.
Alors, problème qui n'est pas un problème alimentaire, tous les détenus mangent,
c'est
mais en
ça.
Revanche, au niveau de l'hygiène, au niveau de la promiscuité, il y a tout un tas de domaines dans lesquels la chaleur, la canicule...
Voilà, ce qui veut dire qu'on contraint dans 9 mètres carrés de conduire 3 personnes à vivre dans 9 mètres carrés pratiquement 22 heures sur 24. Problème de violence qui en découle, problème d'hygiène, encore que la prison de Villeneuve-les-Maguelones est une des prisons qui a des douches à l'intérieur des cellules, ce qui enlève de l'espace, mais qui évite certaines déplacements.
Et l'été, ce qui permet de prendre des douches froides.
Voilà, mais enfin, vous voyez ce que ça peut être. Enfin, il y a quand même la douche et les toilettes avec une intimité très limitée, puisque ce sont des portes style porte western, vous voyez un petit peu le genre. Donc on ne peut pas s'enfermer. Donc quand on vit à 3, voire à 4 dans les cellules 12 mètres carrés, ça devient vite rapidement complexe.
Alors moi, je me pose la question de savoir si les associations, que celles des visiteurs de prison, la vôtre et d'autres peut-être qui existent autour de ce monde carcéral, ne peuvent pas faire, enfin témoignent en tout cas, et ne peuvent pas faire pression pour que les choses évoluent. C'est vrai que ouvrir un nouvel hôpital, c'est à perte, enfin c'est à 15 ans, c'est un peu à perte de vue. Ouvrir une nouvelle centrale ou maison d'arrêt, c'est aussi loin. Mais on peut plus se permettre de prendre du retard là-dedans.
Alors c'est un des objectifs du groupe local Concertation Prison que nous sommes en train de monter, puisque tout en respectant pleinement le travail de qualité qui est fait par l'administration pénitentiaire avec les moyens que l'administration lui donne.
Il y a humain, moyen matériel.
Rien ne se fera, en tout cas c'est mon point de vue, sans une évolution de la mentalité des citoyens français. C'est-à-dire qu'on a trop longtemps considéré que les gens qui étaient en détention avaient mérité d'être les conditions dans lesquelles ils sont. Et on ne peut pas construire une société là-dessus. C'est-à-dire que ces gens-là vont ressortir. Quasiment tous, à de très rares exceptions, vont ressortir.
Avec des traumatismes extraordinaires.
Voilà. Est-ce qu'on veut fabriquer des fauves et déplorer par la suite qu'on aura une montée de la délinquance, ou est-ce qu'on veut que ces gens refassent société, et est-ce qu'on se donne les moyens pour qu'ils fassent société? Et ça, c'est pas juste les pouvoirs publics qui doivent le décider, c'est nous, en tant que citoyens, qui devons changer nos mentalités, accepter qu'on mette plus de moyens dans un premier temps C'est vrai, alors je sais qu'en ce moment, on est plutôt à la mode de l'économie, mais dans un premier temps, investir sur cette question-là pour faire baisser réellement la criminalité et pas juste la contenir.
Il y a peut-être aussi la question de la peine. C'est-à-dire que les juges, bon, effectivement, décident en fonction du code pénal. Ils ont effectivement des peines qui vont de temps à temps, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres modes que de l'incarcération ? À un moment donné, il y avait les tiges des travaux d'intérêt généraux qui punissaient des petits délits, des petites choses comme ça. Maintenant, il y a le bracelet électronique, mais est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres possibilités est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une autre façon de contraindre effectivement celui qui a été reconnu coupable d'un délit ou d'un crime, enfin, en tout cas d'un délit, pour lui éviter justement ces séjours en prison qui sont plus destructeurs que constructeurs.
Alors là-dessus, on a certainement plus de questions que de réponses, mais et j'ai surtout pas la prétention de dire il faudrait faire ceci ou cela. Pour autant, oui, il y a deux évidences à mon avis, c'est que mélanger dans des établissements comme les maisons d'arrêt des gens de tous bords.
Des primo-délinquants déjà.
Des primo-délinquants avec des délinquants confirmés est une hérésie complète. Donc il faudrait certainement
plus spécialisé
à serrer un petit peu les problèmes et à orienter les gens. Mais bon, on passe d'abord par une maison d'arrêt, ce qui paraît logique dans le processus, mais qui est aussi destructeur puisque les gens y restent, donc ils sont obligés de côtoyer d'autres qui sont plus chevronnés. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, effectivement, des peines de substitution qui doivent être possibles et qu'il faut encourager. Alors ça existe, mais c'est trop peu développé.
Donc ça demande d'être développé et peut-être que ça limiterait ce très grand embouteillage.
Il y a aussi une autre réalité, c'est que la surpopulation a des effets pervers. D'abord, elle use énormément les personnels pénitentiaires.
J'allais dire les gardiens.
Les surveillants pénitentiaires sont au bout et que ceux qui sont là ont une motivation extraordinaire pour continuer à faire le travail qu'ils font et ils le font bien. Et puis les conseillers d'insertion et de probation qui sont amenés à gérer beaucoup plus de dossiers, donc à les gérer avec beaucoup moins de temps et avec beaucoup moins d'efficacité. Mais là encore, on ne peut pas leur faire le reproche. Ils devraient être à peu près à 60 dossiers traités, ils sont à plus de 100. Donc.
Alors si je vous amenais sur ce terrain, c'était justement pour parler du maillage des structures d'associations qui travaillent ensemble, parce que vous êtes très nombreux, de nombreuses associations qui travaillaient sur différents aspects de l'incarcération en particulier.
Voilà. Alors on a pris conscience que beaucoup d'associations intervenaient sur la question de la détention en amont, à Naval, pendant, donc je vous cite pêle-mêle les associations qui ont commencé à rentrer dans ce groupe local Concertation Prison, France Victime, l'UNAFAM, Wake Up Café, Aviso, la NVP, la Ligue des Droits de l'Homme, SOS Amitié, Albin, qui est l'association des étudiants qui est universitaire qui souhaite intervenir là-dessus, la Croix-Rouge, l'aumônerie protestante, et voilà, pour le moment on en est là.
Est-ce que parmi vous avez quelques juges et quelques avocats par exemple ?
Alors pas encore, mais on ne désespère
pas. Vous y travaillez ?
C'est un groupe qui est tout à fait naissant, qui est en train de se structurer, et on ne désespère pas effectivement d'amener quelques magistrats.
Mais écoutez, Jacques, dès que vous le voudrez, vous viendrez nous parler de ce groupe. Juste une dernière question, est-ce que vous avez des besoins actuellement ?
Oui, les besoins, on les a en bénévole. C'est vrai que la prison est un milieu qui ne fait pas rêver, mais moi j'invite tous les gens à nous contacter, donc ils peuvent nous contacter sur notre site aviso.asso.fr
aviso.asso.fr, voilà. Je répète, aviso.asso.fr.
Voilà, ils trouveront notre téléphone, notre mail, etc. sur ce site, et ils auront notre présentation, et qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Ce sont encore une fois de belles rencontres. Je crois que tous les bénévoles qui y sont disent qu'après on repart regonflé d'avoir rencontré ces gens,
Et je suis sûr que vous restez en contact avec certaines familles que vous avez accompagnées. Pas trop.
Non. Là, c'est la question de la déontologie nous limite un petit peu sur le.
Donc ça nous ramène au début de cette intervention avec ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Jacques, je vous remercie beaucoup. Je rappelle le nom de cette association qui s'occupe d'accompagner les familles de personnes emprisonnées ou incarcérées. Ça s'appelle Aviso. On rappelle le site.
Aviso. aviso.asso.fr.
Merci mille fois, merci au... Oui.
Et merci à vous de nous accueillir et de nous prêter.
C'était un plaisir et on vous attend pour la fameuse association qui est en train de se constituer et qui sera beaucoup plus large et qui englobera un certain nombre d'associations qui travaillent sur ce terrain-là. Merci beaucoup Jacques, merci à Aurélien qui a assuré la technique de cette émission, merci à vous les auditeurs avant tout, parce que sans auditeurs et sans techniciens, il n'y a pas de radio. Et nous vous disons une prochaine fois dans un autre 10-10 sur un autre sujet. Au revoir, merci. Thank you.